لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Il était prévu de parler aujourd'hui d'un défaut parmi les défauts du cœur, mais comme il y a un événement, on ne peut pas passer sous silence cet événement. Donc on va mettre en évidence, en parlant, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors depuis quelques siècles, les musulmans, de manière générale, prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi al-Awwal, le 12 du mois de Rabi al-Awwal, et ce jour-là on appelle al-Mawlud, Mawlid Nabawi, l'anniversaire. Dans beaucoup de pays musulmans, on fête la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelques rectificatifs. Il y a à peu près une trentaine d'avis différents quant au jour où le prophète est né et le mois. Il n'y a pas unanimité. C'est normal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né 40 ans avant la révélation et les historiens musulmans se sont mis à écrire l'histoire 150 ans après. Ils se sont mis à écrire l'histoire que 150 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc beaucoup de traditions orales, beaucoup de divergences. Ce n'est qu'au 3e siècle de l'Hégire, c'est ça, au 3e siècle, que ce jour du 12 Rabi al-Awwal a été plus ou moins officialisé. Et ceci pas dans tout le monde musulman, mais dans une partie du monde musulman, en Égypte, ou plutôt on appelait à l'époque Ifriqiya, c'est-à-dire l'Égypte, Soudan, la Tunisie, presque le nord de l'Afrique, lorsqu'il y avait une dynastie qui gouvernait à cette époque qui s'appelait les Fatimides, Al-Ubaydiyoun, une branche extrémiste du chiisme, Shia, et qui sont considérés par les chiites eux-mêmes comme étant loin du juste milieu. Ce sont les Fatimides qui vont instaurer, qui vont officialiser ce Maulid, cet anniversaire, cette naissance. Ils vont faire du 12 de Rabi al-Awwal un jour de fête à l'occasion de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans toute l'Égypte et les pays avoisinants, le 12 de Rabi al-Awwal est un jour important. Alors ça a vite pris une tournure haram, puisque durant ces festivités énormément de bid'ah, d'innovation, énormément de péchés sont commis. Et lorsque les Fatimides vont perdre le pouvoir, ils seront remplacés par la dynastie Ayyubide, l'Ayyubiyoun, avec Salah ad-Din. C'est lui qui va instaurer la dynastie, c'est lui qui va faire disparaître les Fatimides. Salah ad-Din, sultan musulman, pieux, sunnite, soucieux d'être fidèle à la tradition, va bien entendu condamner tout ce qui se fait durant ce jour, mais dans le le monde musulman, le 12 de Rabi al-Awwal, est devenu le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aujourd'hui encore, vous prenez presque tous les calendriers musulmans, arabes, et on vous dira le 12 de Rabi al-Awwal, naissance du prophète. Alors ce n'est pas une certitude, c'est un avis parmi une trentaine d'avis. On ne sait pas exactement quand est né le prophète. On sait qu'il est né l'année de l'éléphant, on sait qu'il est né un lundi, puisque lui-même l'a dit, d'accord? Mais quel jour, on ne sait pas, Allahu a'lam. De quel mois, Allahu a'lam. Peu importe, c'est un détail, vous comprenez? Ce n'est pas important, il ne faut pas, je veux dire, s'attarder sur cette question. Le plus important, c'est de remercier Dieu matin, midi et soir d'avoir envoyé cet homme comme messager pour guider l'humanité et de le remercier chaque seconde d'avoir fait de nous des musulmans, des élèves fidèles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que Dieu nous donne l'amour du prophète et la force de suivre sa sunna, sa tradition, de le prendre pour exemple. C'est ça qui compte. Alors, on ne va pas faire comme le font malheureusement certaines confréries aujourd'hui. Quand c'est le 12 de Rabi al-Awwal, il y a une ambiance de fête, mais vraiment de fête. Et ça va dans tous les sens. Ça va des festivités les plus correctes à celles qui sont les plus loin de la tradition. Nous avons juste rappelé ce que doit faire le musulman de manière permanente. Que ce soit le 12 de Rabi al-Awwal ou le 13 ou le 10 ou le 11, toute l'année, tous les jours, à chaque instant, la meilleure des choses que vous devez faire, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu dit dans le Coran, dans une sourate qui s'appelle Sourate al-Ahzab, les coalisés, qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Ô envoyé de Dieu, ô prophète, crains Dieu. Ittaqillah, crains Dieu. Donc ici, Dieu exhorte son messager en lui disant que la chose la plus importante que doit faire un être humain et un prophète en particulier, c'est quoi? C'est de craindre Dieu. C'est le conseil et l'exhortation que Dieu a fait à tous les messagers. Il n'y a eu de messager si ce n'est qu'il n'ait reçu ce conseil, la crainte de Dieu. Et lisez le Coran, vous verrez que Dieu ne cesse de nous dire « Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha » « Ô vous qui avez cru, craignez Dieu ». Dans cette sourate, Dieu dit « Ya ayyuhal, inna allaha wa malaikatahu » Usalluna ala al-Nabi. Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, vous devez en faire de même. Sallu alayhi et saluez-le. Priez sur lui et saluez-le. Voilà un devoir parmi tant d'autres du musulman à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont tous d'accord pour dire que c'est une obligation que de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont divergents sur le nombre de fois et quand. Ainsi, certains disent, devez prier sur le prophète, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, le minimum. Sinon, devez prier sur le prophète, à chaque fois qu'on l'évoque, chaque fois que vous entendez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez prier sur lui. Et ensuite, il y a des moments de la journée, de l'année et des lieux où il est fortement recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons les évoquer inshallah tout à l'heure. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même a déjà prié sur le prophète et les anges ne cessent de prier sur le prophète? On pourrait se poser la question suivante: quoi ça sert que nous, être humains pécheurs, nous prions sur lui, puisque Dieu lui-même l'a béni et les anges parfaits invoquent Dieu pour lui? Certains savants disent c'est un signe de reconnaissance de notre part. Nous devons être reconnaissants à son égard, parce qu'il a été généreux, il nous a guidés, il ne cesse de nous guider aujourd'hui. Donc, minimum, c'est d'être reconnaissant, de le remercier. La meilleure façon de le remercier, c'est d'implorer la bénédiction de Dieu pour lui. D'accord ? Secondo, à la rigueur, vous pouvez oublier toute personne qui vous a fait du bien. Mais vous n'avez pas le droit d'oublier celle qui vous a fait le bien par excellence. Pour cela, l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu, dit: les savants ont plus de valeur que les parents. Pourquoi? Il dit: vos parents vous ont mis au monde et vous donnent la nourriture physique, matérielle, pour entretenir votre corps. Quant aux savants, ils vous ont mis au monde spirituellement et ils vous donnent la nourriture spirituelle. Et la vie, la vraie vie, c'est la vie du cœur et non pas du corps. Il dit cela de qui? Des savants. Qu'est-ce que vous pensez alors du prophète, le savant des savants, le maître des savants, le guide par excellence? N'est-il pas plus important que nos parents et toute autre créature? Ainsi, nous n'avons pas le droit de l'oublier. C'est pour ça que nous l'évoquons sans arrêt. Et quand on aime quelqu'un, on parle de lui. Quand on aime quelqu'un, on l'évoque. Il est présent. C'est parce que notre religion nous a interdit de confectionner des statuettes, des statues, des représentations physiques et des photos, des dessins des prophètes. C'est parce que c'est interdit. C'est haram, n'est-ce pas? Si ça n'avait pas été haram, franchement, n'auriez-vous pas chez vous, partout, une statuette du prophète, une image, une photo, comme le font certains chrétiens aujourd'hui à l'égard du prophète Aïssa, alayhi salam, tellement il l'aime, il l'adore, il est présent partout. Il le porte même avec eux. La croix, qu'est-ce si ce n'est un rappel de ce grand prophète pour eux? Mais nous, nous n'avons pas le droit, c'est haram. Ainsi, Dieu nous a donné mieux que la photo et la statue. Il nous a donné la prière sur le prophète. Pourquoi? Pour l'avoir à l'esprit, pour ressentir sa présence à chaque fois que nous l'évoquons, pour exprimer notre amour à chaque fois que nous l'évoquons. Car si le chrétien, en portant la croix, montre son amour à l'égard de Seigneur Isa, alayhi salam, il est évident que lorsqu'il évoque son nom ou lorsqu'il entend son nom, il ne réagit pas. Mais nous, il suffit qu'on entende Mohammed, mais qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un réflexe affectif. On ne peut pas s'empêcher de dire sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? C'est devenu subhanallah comme une inspiration. Hein? Vous êtes obligé de le dire, sinon il manque quelque chose. Il vous manque un peu d'oxygène. Et parfois, vous ne pouvez pas prendre avec vous la statue ou la photo ou la croix. Hein, puisqu'elle est lieu aujourd'hui, vous ne pouvez plus porter une croix, du moins. C'est ce qu'ils prétendent. Mais nous, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le prophète est à nos côtés. Ou du moins, nous sommes capables de quoi? De nous rappeler sa grandeur et sa beauté. À travers quoi? À travers quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, qui est la parole, hein, qui est l'expression. Ensuite, il nous est demandé de prier sur lui pour nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons pas rester dans la guidance, le chemin droit. Si vous oubliez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égarez. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie sur moi, Dieu prie sur lui 10 fois. N'est-ce pas? Et que signifie la prière de Dieu sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu prie sur nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit dans le Coran, «Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur». C'est lui Dieu qui prie sur vous ainsi que les anges pour vous faire sortir des ténèbres et vous mettre dans la lumière. Donc, à chaque fois que tu pries sur le prophète, Dieu te sort des ténèbres et te met dans la lumière. Pour être guidé et rester sur le chemin droit, il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est cette prière sur le prophète qui déclenche les prières de Dieu sur nous, qui ont pour effet et impact de nous éloigner des ténèbres et nous rapprocher de la lumière. Donc, tu ne peux pas être guidé ou rester dans la guidée si tu ne pries pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez? C'est pour cela que Dieu nous demande de prier sur nous. Et Cheikh Saïd Fouwa, rahimahullah, dit dans un de ses livres, j'ai écrit lequel, il dit, il est nécessaire pour les humains d'avoir un maître. Un maître qui nous éduque, qui nous purifie, etc., etc. Mais pour celui qui n'a pas la possibilité d'être l'élève, le mourid d'un cheikh, alors il a pour solution de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça compensera l'absence du cheikh. Et celui qui a un cheikh doit prier sur le prophète. Mais il a un avantage, c'est qu'il a le cheikh avec lui qui lui tient la main, qui l'aide à prier sur le prophète, qui l'aide à purifier, à se purifier. L'autre, lui manque cette aide. Ainsi, il doit redoubler de prière. Il doit prier 2 fois plus, 10 fois plus. Sur le prophète parce que il lui manque le cheikh. Et la prière sur le prophète, c'est une lumière, elle guide les individus, les personnes. Ensuite, nous devons prier sur lui parce que Dieu dit dans le Coran, لِتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. C'est un verset, certains savants disent que il nous est demandé, à travers ce verset, de respecter, d'avoir beaucoup de respect, de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le respecter si ce n'est que de montrer qu'il est différent des autres. Ainsi, lorsqu'on évoque un grand homme, quelle que soit sa grandeur, sa piété, nous ne disons pas sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants disent que as-salatu elle est réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas le droit de dire de quelqu'un, de monsieur tout le monde, lorsqu'on évoque son nom, sallallahu alayhi wa sallam. Cher à tel, sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas le droit. Est-ce que c'est le mettre au niveau du prophète ou c'est lui vouer du respect comme le respect que l'on voue au prophète? Ainsi, le prophète a un statut particulier. La preuve qu'il a un statut particulier, c'est qu'il y a cette formule qui lui est réservée. Alors certains disent non. La preuve, c'est que lui-même, il nous a enseigné la formule pour prier sur lui, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la famille de Muhammad. Dans un autre hadith, wa zurriyatihi, et sa descendance. Ainsi certains disent, on peut prier sur sa famille. Tu peux dire Aïcha sallallahu alayha wa sallam. Et un hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour ses compagnons en disant sallallahu alayka, hein, que Dieu te bénisse ainsi que ta descendance. Les savants répondent en disant oui, on peut, puisque le prophète il nous l'a enseigné, prier sur le prophète ainsi que sa famille et sa descendance et ses compagnons, mais en même temps que lorsque l'on prie sur le prophète. Ainsi on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa azwajihi. Vous comprenez? Et le prophète, ensuite on fait suivre tous les ordres qu'il mérite. Mais ne pas utiliser cette formule pour un membre de sa famille à part, par respect justement toujours pour le prophète. Sauf certains savants qui pensent le contraire, mais c'est pas grave. Prenez, c'est une divergence qui ne fait pas de mal. L'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, dans son sahih, il dit Fatima alayha salam. Ouais, Fatima, que le salut de Dieu soit sur elle. Mais il dit pas alayha as-salatu wa salam. Vous avez vu, c'est la distinction quand même. Peu importe, c'est un détail. Ouais. Pas besoin de polémiquer. Donc, voilà pourquoi il nous est demandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes d'accord? Deuxièmement, que signifie la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sachez que lorsqu'on dit sallallahu alayhi, que Dieu prie sur lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et lorsque nous disons les anges prient sur le prophète, ça veut dire les anges implorent le pardon pour le prophète. Les anges implorent la miséricorde pour le prophète. Et nous, lorsque nous prions sur le prophète, ça signifie ô Seigneur, bénis-le, fais-lui miséricorde. Voilà ce que signifie cette invocation. Salue-le. Mais sachez que pour que cette formule ait un impact sur nous, et pour que Dieu en tienne compte, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est nécessaire de la prononcer étant conscient de l'impact, de la grandeur, de la beauté de cette formule. Ainsi, ne vous pressez pas quand vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes qui disent sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il faut le dire. Conclusion, ils vont tellement vite qu'ils prononcent mal les mots, voire même ils font des hiatus. Il y a des voyelles qui disparaissent, voire des lettres carrément qui disparaissent. Prenez le temps de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un fardeau. C'est pas une punition. Vous entendez? Ça doit être dit avec plaisir. le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la meilleure formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais il est évident que la meilleure formule, c'est la formule que le prophète lui-même nous a enseignée, n'est-ce pas? Ainsi, un compagnon qui s'appelle Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr, radiallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Bashir ibn Sa'd dans ces termes. Il lui dit, ô envoyé de Dieu, Dieu nous a ordonné de prier sur toi. Mais comment prier sur toi? Kayfa nusalli alayk? Il dit, le prophète dit, dites, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Le prophète enseigne ses élèves. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم والسلام كما علمتم et la salutation comme je vous ai déjà enseigné. Donc voilà une formule que le prophète a enseignée. C'est une formule parmi tant d'autres, il n'y en a pas qu'une. La preuve, en voilà une autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ida antum sallaytum alayya faqulu » Si vous voulez prier sur moi, dites « Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabiyyi al-Ummiyyi » Le prophète, un alphabète « Wa ala ali Muhammadin » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Encore une formule. À nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, dit, اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Voilà nouveau une autre formule. Alors encore une autre, il a dit, dites, قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته ses épouses, sa descendance. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. À nouveau une autre formule. Il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les citer. La formule que la majorité des musulmans connaissent, ont appris par cœur et récite dans leur prière obligatoire, est la suivante. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Certains disent اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors cette formule n'existe pas comme ça, in texto, dans les hadiths. C'est un savant ou des savants qui l'ont formulé de cette manière. Ils ont pris toutes les riwayats, toutes les différentes versions, et ils les ont compilées et ensuite ils les ont... formuler la prière de cette manière. Ils l'ont appelée As-Salatul Ibrahimiyya. Et c'est celle qui est enseignée dans la plupart des écoles, des mosquées, etc. Alors certains la remettent en question parce qu'ils disent qu'il n'y a pas un hadith qui, sahih bien sûr, qui enseigne cette formule de cette manière. D'autres disent, oui, c'est vrai, mais tout ce que nous avons fait, c'est prendre toutes les formules et puis les remixer, d'accord, et puis faire cette formule. Tandis que vous rajoutez, par exemple, la formule Sayyiduna veut dire notre maître, c'est ça, notre Seigneur. Si elle n'existe pas dans les hadiths, pourquoi vous l'avez rajouté? Les autres répondent en disant, comment prononcer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans la formule Sayyiduna? Quand vous appelez un grand homme, qu'est-ce que vous dites? Si vous demain vous croisez le président de la République, vous allez l'appeler Jacques? Je ne pense pas. C'est un manque de respect. D'ailleurs, vous ne le faites même pas avec votre prof. Encore moins avec votre père ou avec votre mère. Ainsi, le minimum de respect à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mettre en avant quoi? Une formule de respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de... lors de la bataille de... contre les juifs de Banu Qurayza, les juifs ont décidé de se rendre à condition que ce soit Sa'd ibn Mu'az qui juge, qui tranche. Le prophète a accepté que Sa'd soit le juge. Quelle que soit la décision, le jugement de Sa'd, le prophète l'accepte, les juifs l'acceptent. Parce qu'il était leur allié avant sa conversion à l'islam. Donc ils espéraient un signe de complaisance et de miséricorde de sa part. Sa'd est ramené, il était blessé sur un âne au champ de bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, aux ansar, aux muhajiroun, il leur dit « Qumu ila sayyidikum » Allez, debout. Mettez-vous debout. Pourquoi? Pour accueillir votre sayyid, votre maître. Saad était un notable, un grand parmi les ansar. Si les gens devaient, si le prophète a demandé aux compagnons, a ordonné aux compagnons de se mettre debout devant, non pas Sa'd ibn Mu'ad, mais Sayyidukum Sa'd ibn Mu'ad, bon, le prophète met une évidence, une grandeur. Alors qu'est-ce qu'il en est du prophète? On doit dire Sayyid puissance 1000. Ainsi, certains savants n'osent même pas prononcer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir prononcé avant Sayyid Maulana, hein, ou bien ils disent Ar-Rasul, Rasulullah, Nabiullah, Habibullah. Comprenez? Parce que pour eux c'est un manque de respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe. Les intentions sont bonnes. Le top et l'idéal, c'est de se suffire de la formule que le prophète a enseignée. Et sachez que nos savants sont plus au courant que nous de ce que le prophète a enseigné. Et ils savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ne commence pas dans la polémique et les détails. Quand doit-on prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Prions lorsque nous sommes dans la salat, lorsque l'on reste assis et que l'on fait ce qu'on appelle le tashahhud, n'est-ce pas? Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à ses compagnons la prière sur lui dans le tashahhud. Il dit dans un hadith sahih, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ. Quand on prie dans la salat, si l'on veut évoquer Dieu, on doit glorifier Dieu, prier. s'appuyer sur le prophète et ensuite faire des doigts. Et vous savez tous que dans le dernier tachahoud, il y a des invocations à faire. Hein, à la fin de la prière, avant de dire salam alaykoum, il y a des invocations. Prenez n'importe quel livre sur l'enseignement de la prière, on vous donne toutes les invocations que le prophète faisait. Mais avant de faire ces invocations, il faut d'abord prier sur le prophète. Ainsi, Abdullah ibn Omar dit, « La takunu salatun illa bi qira'atin wa tashahudin wa salatin ala nabi. » Point de prière valable, obligatoire, s'il n'y a pas lecture du Coran, s'il n'y a pas le tashahud et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est considéré par certains savants comme dans le four, c'est-à-dire c'est le prophète qui a dit cela et dont parle de même le Omar. Pour cela, la plupart des savants disent que le tashahud avec la prière du prophète est obligatoire à la fin de la prière, dans le deuxième tashahud, ou le premier pour la salat sauf. Il est obligatoire pour certains savants. Pour d'autres, non, il n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, le tashahud est un moment propice, idéal pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne le ratez pas. D'accord ? Deuxième moment où il faut prier sur le prophète, c'est lorsque l'on fait la prière sur le mort. La prière sur le mort, vous savez, il n'y a pas de recours ni de sujoud, on reste debout, on récite la Fatiha, on dit Allahu Akbar, et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, ensuite on dit Allah Akbar, troisième temps, on fait des invocations. Donc, la Fatiha, un takbir, suivi de quoi? Suivi de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, lorsque l'on fait la khutbah, le pran, que ce soit du vendredi ou des prières des deux fêtes, il est demandé à celui qui fait cette khutbah de commencer par Alhamdu, la louange, glorification de Dieu, et ensuite la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc si ça vous arrive demain, n'oubliez pas, sinon votre khutbah est handicapée. Hein ? Elle n'est pas complète. Quatrièmement, après l'appel à la prière, une fois qu'on fait l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites répéter l'adhan, ensuite priez sur moi. Parce que si vous priez sur moi, Dieu prie sur vous, et invoquez Dieu pour qu'il me donne l'ouassila, qui est une place au paradis, qui est réservé pour une seule personne. J'espère que ce sera moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous demandez à Dieu pour moi le wasila, vous aurez en échange ma shafa'a, mon intercession. Je vais intercéder pour vous. Cinquièmement, vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand vous voulez faire une invocation, une dua. Ainsi, vous priez sur le prophète avant la dua, avant de commencer votre invocation, vous glorifiez Dieu, vous priez sur le prophète. Ou, vous glorifiez Dieu, vous faites une invocation, et au milieu de la dua, vous priez sur le prophète. Ou à la fin. Ça peut être au début, au milieu, à la fin. Sinon, l'idéal, c'est de prier sur le prophète au début de la dua, au milieu de la dua et à la fin de la dua, si la dua prête à tout ceci, si elle est longue. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme glorifier Dieu, prier sur le prophète et faire des dua pour lui. Et le prophète a dit « Sal-to-ta, sal-to-ta, demande Dieu te donnera. Demande, Dieu te donnera parce que tu as demandé dans les règles de l'art. C'est-à-dire, tu as fait une dua comme il se doit. Sinon, la dua n'est pas parfaite. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ لَمْ يُسْتَجَابَ الدُّعَى. Et c'est Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui dit cela. Si vous ne priez pas sur le prophète, quand vous faites vos invocations, Dieu n'exauce pas vos invocations. Dieu ne les entend pas, Dieu ne les exauce pas. Sixièmement, vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand vous entrez dans la mosquée ou quand vous quittez la mosquée. La dua, vous la connaissez, c'est Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Quand vous entrez dans la mosquée et ensuite vous dites Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Et quand vous sortez, vous dites Allahumma ftahli abwaba fadlik et vous, vous priez sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous êtes à la Mecque et vous faites ce qu'on appelle as-sa'yu, c'est-à-dire la marche entre le monticule de Safa et de Marwa. Vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand vous êtes sur le Safa et vous faites des invocations. C'est une sunna. Recommande. Huitièmement, vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand vous êtes dans une assemblée. Vous êtes en groupe, que ce soit à la mosquée ou que ce soit chez quelqu'un. Quand vous êtes en assemblée, vous priez sur le prophète. Pendant l'assemblée, à tout instant, et quand vous décidez de vous séparer. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, « Majtama'a qawmun summa tafarraqu an ghayri dhikri Allahi wa salatin ala al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam illa qamu an antani an antana min jifatin. » Hadith fait peur. Parce que des gens se retrouvent, sont en assemblée, et ils se séparent. Sans avoir évoqué Dieu, ni prié sur le prophète, c'est comme s'ils avaient laissé sur place pire qu'une charogne. Mais c'est comme si vous étiez réunis autour de quelque chose qui sent plus mauvais, qui sent plus qu'une charogne. Vous ne voyez pas la bête, vous ne sentez pas l'odeur, mais c'est ce qui s'est passé. Vous étiez là, présent, et au milieu de vous, il y a quoi ? Il y a un cadavre pur. Parce que vous n'avez pas évoqué Dieu, et vous n'avez pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma qa'ada qawmun » مقعداً لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حصرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. Parce que les gens se retrouvent, sont assis en assemblée, et ils se séparent sans avoir évoqué Dieu. Et prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, ils regretteront cette assemblée, même s'ils entrent au paradis. Pourquoi regretteront-ils ? Parce qu'ils auront raté une récompense extraordinaire. C'est pour ça, la sunna, c'est quoi ? C'est quand on se sépare, on dit Subhana Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifun, ou bien Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Nashhadu an la ilaha illa ant, etc. Et Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc ça c'est à chaque fois que nous sommes en groupe. Neuvièmement, nous prions sur lui quand on entend quelqu'un qui évoque son nom. Et ça, c'est presque une obligation. Vous connaissez tous le hadith de Jibril alayhi salam Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son minbar, il a dit trois fois Amin. On l'a entendu, on l'a questionné, et il a dit la première fois l'ange a évoqué Dieu contre celui qui connaîtra ses parents et qui n'entrera pas au paradis pour les avoir servis, tant pis pour lui s'il ne va pas au paradis. Celui qui aura jeûné le mois de Ramadan et Dieu ne lui aura pas effacé ses péchés parce qu'il aura mal jeûné, tant pis pour lui. Et celui qui aura entendu le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'aura pas prié sur lui, alors tant pis pour lui, il ne mérite vraiment pas la bénédiction des anges. Donc, malheur à celui qui entendra le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'aura pas prié sur lui. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Bakhilun, bakhil, il est avare. Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. » C'est un avare. Celui qui aura entendu le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne se sera pas donné le plaisir de prier sur lui. Dixièmement, il est recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin, en début de journée, et le soir, en fin de journée. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man salla alayya hina yusbihu wa hina yumsi ashran adrakathu shafa'ati yawm al-qiyamati » Celui qui priera sur moi 10 fois le matin, 10 fois le soir, qu'est-ce qu'il en coûte ? Il aura la chance de faire partie de ceux pour qui le prophète intercédera. Si vous voulez, la shafa'a, l'intercession du prophète, c'est ce que c'est l'intercession. C'est-à-dire que ce jour-là, nous allons être jugés, ce ne sera pas clair, et le prophète va intervenir et demander à Dieu de nous pardonner. Il va nous tirer d'affaire. Donc la shafa'a est importante. Et pour attirer la shafa'a du prophète, on prie sur lui 10 fois le matin et 10 fois le soir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimum. Onzièmement, vous priez sur lui le jour où vous serez en face de lui, c'est-à-dire à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, devant sa tombe. Ainsi, vous priez sur lui quand vous êtes devant sa tombe. Abdullah ibn Dinar a dit, j'ai vu Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Vous savez qui est Abdullah ibn Omar? C'est le fils de Omar ibn Khattab. Et il est connu pour être quelqu'un qui a été très 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 fidèle à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pratiquait la sunna du prophète dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. Si bien qu'il délaissait des choses qu'il aimait parce que le prophète ne les a pas faites. Le prophète ne les a pas interdites. Mais parce que le prophète n'a pas fait une chose, il ne la faisait pas. Et lorsque le prophète faisait une chose, même quelque chose qui était naturel et normal, par exemple le fait de s'arrêter sous un arbre, il s'est arrêté une fois sous un arbre pour faire sa sieste, mais Abdullah, quand il passait devant cet arbre, il s'arrêtait, il faisait sa sieste. Parce que le prophète a fait sa sieste ici. Ça ne fait pas partie de la sunna qu'il faut faire, mais il reproduisait tous les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par amour, tellement il aimait le prophète. Donc il a dit, Abdullah ibn Dinar, j'ai vu Abdullah ibn Omar radiallahu anhu debout devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam prier sur le prophète et faire des invocations pour Abu Bakr et Omar son père. Douzièmement, il est bien de prier sur le prophète quand vous sortez du marché de la grande surface. Donc vous allez dans une grande surface, vous quittez cette grande surface, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Abu Wa'il a dit, je n'ai jamais vu Abdullah quel Abdullah? Abdullah ibn Omar? Non. Abdullah ibn Mas'ud. Abu Abdurrahman. Je n'ai jamais vu Abdullah s'asseoir à une table ou participer à un enterrement ou autre chose, si ce n'est qu'il glorifiait Dieu et priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire des invocations, et ceci même lorsqu'il sortait du marché. Il est dans un lieu où, un lieu qui était vide, il s'asseyait et il faisait des invocations et ensuite il s'en allait. Et Abdullah, radiallahu anhu, était soucieux d'implorer, de prier sur le prophète là où les gens ne pensent pas à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes bien d'accord que quand on est au marché, au souk, dans une grande surface, on a la tête ailleurs. Et c'est là où les invocations, le zikr, les prières sur le prophète ont le plus de poids et de valeur. Parce qu'il n'y a personne qui prie sur le prophète. D'accord? De même lorsque vous allez à la fac, hein, lorsque vous allez en cours, au boulot, personne, subhanallah, qui pense à dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Donc prenez cette habitude. Quand vous entrez dans la classe, dans votre tête, dites Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quand vous mettez debout pour partir, dites-le aussi. Hein? Sans arrêt, vous ressemblerez au salaf salih, radiallahu anhu, tel. De même, treizièmement, il est bien de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Aïd, lors de la prière de l'Aïd. D'accord? C'est comme ça que faisaient les compagnons des salaf salih. Quatorzièmement, le vendredi et la nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi soir et vendredi toute la journée, c'est un moment propice pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, le meilleur des jours de la semaine, c'est le vendredi. C'est un jour où Adam alayhi salam a été créé, c'est le jour où il est décédé, c'est le jour de la fin du monde, le jour de la résurrection. فَأَكْفِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ. Alors priez énormément ce jour-là pour moi. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui prie sur le prophète jeudi soir, le vendredi, le prophète est au courant de ses prières. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, oh prophète, comment peux-tu être au courant alors que tu es décédé? Il dit, sachez que les corps des prophètes ne se décomposent pas. Les corps des prophètes ne se décomposent pas. Dans un autre hadith, il dit, le vendredi, ce qui prie sur moi, les anges qui sont à vos côtés, qui prennent note de ce que vous dites et ce que vous faites, viennent le voir dans ma tombe et me disent, voilà, un tel, fils d'un tel, te salue, a prié sur toi aujourd'hui. Donc le vendredi et le jeudi soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant et il reconnaît tous ceux qui prient sur lui. Donc faites partie de ces gens-là qui, le vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend leur rang, il est satisfait d'eux et il prie pour eux. De même, il est recommandé de prier sur le prophète, deuxièmement, lorsque vous lisez le Coran, et vous lisez un passage où on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu dit. Ainsi, quand l'imam lit le Coran dans la prière, à un moment donné, il va dire par exemple يا أيها النبي تقي الله. Vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous dites derrière l'imam? Dès que vous entendez le prophète, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y a un verset qui dit Muhammadun Rasulullah. Vous ne pouvez pas vous empêcher de dire sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Ça prouve que vous avez une foi éveillée. Muhammadun Rasulullah wa alladina ma'ahu. Vous avez vu le verset dit Muhammadun Rasulullah wa alladina ma'ahu. Tout de suite, dans votre prière, qu'est-ce que vous dites? Vous dites sallallahu alayhi wa sallam. À voix basse, bien sûr. Hein, pas à voix haute, sinon vous dérangez. De même, 17e, il est bien de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous avez des soucis, des problèmes, lorsque vous êtes dans la difficulté. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a faim. Ils disent, Ubay ibn Ka'b dit que tôt le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle ses compagnons. Il leur dit « Uzkurullah, évoquez Dieu. J'ai rajifatu, tatba'uha radifa. J'ai al-mawtu bima fi. J'ai al-mawtu bima fi. » C'est bientôt la fin du monde, la résurrection, la mort arrive avec ses tourments. Car Ubay, réagit, il dit « Ô envoyé de Dieu, je prie sur toi. » Mais combien de temps dois-je prier sur toi? Dois-je prier la moitié de mon temps sur toi? Par exemple, si il fait du dhikr pendant 6 heures, dois-je, pendant ces 6 heures, faire que « As-salatu ala rasul » ou pendant 2 heures ou 3 heures, Ubay veut savoir le temps durant lequel il doit s'investir dans la prière. Le hadith est long. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Plus tu prieras sur moi, mieux c'est. » Et Ubay dit « Puisque c'est ainsi, ô prophète, tout mon temps que j'accorde au dhikr sera fait de prière sur toi. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Izan, puisque tu veux prier sur moi sans arrêt, 24 heures sur 24, conséquence, Izan, ouvrez vos oreilles, tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Tes péchés seront effacés et tes soucis disparaîtront. » Vous avez vu, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une manière d'alléger nos problèmes et nos soucis. De même qu'il est bien de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous demandez quelqu'un en mariage. Lors de la cérémonie, que ce soit la demande ou le mariage, vous récitez certains versets du Coran et vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 19e, priez sur le prophète partout et surtout chez vous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taj'alu buyutakum kuburan » Ne faites pas de vos demeures des tombes. « Wa la taj'alu qadri idan » وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة تبلغني حيث كنتم. Et ne te faites pas de ma tombe un lieu d'adoration et priez sur moi là où vous vous trouvez parce que vos prières m'atteignent. Quel que soit l'endroit où nous sommes, il faut prier sur le prophète, n'ayez crainte. Le prophète est au courant. De même que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, il est recommandé pendant le ramadan, à la fin de la dua, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les récompenses pour pour celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Primo, pour chaque prière que vous faites pour le prophète, vous avez Dieu qui prie sur vous et les anges. Et c'est multiplié par 10. Secondo, pour chaque prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des péchés en moins, hein, vous effacez vos péchés, et vous augmentez en grade au paradis. Troisièmement, on vient de l'évoquer, ça efface vos péchés et ça allège ou ça fait disparaître vos soucis, vos problèmes au quotidien. Quatrièmement, la shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, votre nom, votre prénom sera connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète vous reconnaîtra parce que vous priez sur lui, puisqu'il y a un ange qui va vers le prophète et qui lui dit « Un tel, fils d'un tel, a prié sur toi. » Donc vous faites partie des intimes, puisque le prophète vous connaît, vous reconnaît. Sixièmement, pour purifier les rencontres, les assemblées. Septièmement, pour que Dieu exauce, écoute vos invocations. Celui qui ne prie pas sur le prophète quand il invoque, ses invocations ne sont pas entendues. Huitièmement, pour devenir généreux. Car celui qui ne prie pas sur le prophète est l'avare des avares. Et neuvièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man nasiya as-salata alayya khati'a tariq al-jannati » Celui qui oubliera de prier sur moi oubliera le chemin du paradis. C'est-à-dire, si vous oubliez de prier sur le prophète, vous allez vous égarer. Le chemin du paradis est clair. Si vous oubliez la prière sur le prophète, vous n'arriverez plus à retrouver le chemin qui mène au paradis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Autant de fois. Alors là, les savants, ils sont extraordinaires. Je lisais pas plus tard qu'il y a quelques heures un livre de Taqiyuddin al-Nabhani, un grand savant du 19e siècle, qui était libanais. Il a écrit énormément de livres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui adorait le prophète. Si, il a beaucoup beaucoup de livres. Il a écrit un livre, le titre signifierait le livre des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première partie, la première moitié du livre, c'est il parle de l'importance de la prière sur le prophète, etc., etc. Puis la deuxième partie, ce sont des prières qu'il a écrites lui-même ou qu'ont écrit d'autres savants. Et là, je veux dire, ce sont des experts dans les formules qui glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles sont longues. En fait, ce sont des hymnes à la grandeur et à la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça y va. Ô Seigneur, prie sur le prophète, la lumière des cieux et de la terre. Il donne les caractéristiques du prophète. Après, il dit autant de fois qu'il y a de fourmis dans leur fourmilière, de poissons dans les océans, d'étoiles dans les galaxies, autant de fois que les êtres humains. En fait, il met la prière du prophète en facteur. C'est pour ça que vous dites, c'est un mathématicien. Et ça, c'est intelligent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un jour sa femme, je crois Maïmouna, en flagrant délit de dhikr. Après la prière de Soubh, elle est restée assise et elle évoquait Dieu jusqu'au lever du soleil. Et le prophète lui a dit, sache que moi j'ai prononcé une formule qui équivaut à ces heures de dhikr que tu as faites. Cette formule, en deux minutes, en deux secondes, pardon, vous la prononcez. Laquelle, il a dit, moi j'ai dit, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, warida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Regardez, ces quatre paroles valent deux heures, voire trois heures de dhikr qu'a fait son épouse. Ainsi, il faut essayer de chercher des formules, vous savez, qui mettent en facteur la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoique la meilleure des formules, si bien entendu, c'est que le prophète nous a enseigné. Allah alam wa alhamdulillah wa sallam. Que pensez-vous du boycott? Jusqu'où doit-on boycotter? Boycotter à fond. D'accord? Tout ce qui est boycottable, vous le boycottez. Tous les jours, sans arrêt, et vous incitez les autres à boycotter. D'accord? Alors il est évident qu'il y a des produits phares qu'il faut boycotter. Produits qui sont... D'ailleurs, la plupart de ces produits sont nocifs pour la santé. C'est du gaspillage, c'est de la surconsommation. Donc, boycottez-les. Hein. J'ai pas la liste en tête, mais elles existent, les listes. Faut pas non plus exagérer, entrer dans les détails. Parce qu'après, ça perturbe les gens. Vous comprenez, ça les fait fuir. Tout le monde n'a pas une foi comme la vôtre pour délaisser des produits qui sont bons parfois et qui sont utiles. Essayez de parler de ce qui est facile à boycotter et de ce qui est flagrant. Style le Coca-Cola, le McDonald's. Ouais. Bon, je ne vais pas vous prouver à plus B que c'est utile. Ouais. Je pense que c'est tellement flagrant que ça serait enfoncer une porte ouverte que de parler de l'utilité du boycott. Mais serait-ce ainsi le boycott des produits sionistes et américains, s'il n'avait comme effet positif que la création de produits entre guillemets islamiques, alhamdoulilah, ce serait positif. Ainsi, vous avez Coca-Cola, Muslim Up, Muslim Down, c'est ça, Muslim White, Muslim... Non mais c'est puissant, c'est beau. Avant ça n'existait pas. Maintenant regardez ce phénomène-là. Beaucoup de frères et de sœurs se sont lancés dans une économie parallèle. Il faut que ça se fasse dans les règles hein, du commerce islamique. Et une concurrence loyale, halal. Pas commencer à sortir des théories. Ouais, mais c'est sûr que ce sont des musulmans qui font ça. Ouais, les scocottes, c'est sûr qu'ils sont des amis de la cause palestinienne. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il me dit mais Coca-Cola, non. Qui dit que les 10% vont en Palestine? Je vous prends là, je ne sais pas comment ils jouent, et regardez la méchanceté des gens. Qui dit que ça va en Palestine les 10%? Moi je vais te mettre en confiance. Ça ne va pas en Palestine. Hein? Vas-y, dors tranquille, ça ne va pas en Palestine. Si tu as un gramme de bon sens et d'intelligence, achète du Mecca et non pas du Coca. Parce que si les 10% du Mecca ne vont pas en Palestine, je suis sûr que les 10% du Coca vont en Israël. Vous avez compris le... Maintenant, je vais te mettre en confiance. Ça va en Palestine. D'accord? Mais admettons que ça n'aille pas. Admettons. Je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie de le dire. Je préfère que ce soit mon frère Abdel Qadr qui s'en mette plein les poches que l'autre. Ouais. qui s'en met plein les poches, franchement. Trouvez-vous que c'est pas... Salam alaikum. Peut-on prier tout en portant des vêtements où sont représentés des animaux? Lacoste, Ralph Laurent. Les savants l'interdisent, effectivement. Ils interdisent les représentations d'être animés sur les vêtements. Donc de ce fait, en dehors de la prière et pendant la prière. Mais est-ce que votre prière est valable? Oui, elle est valable. Votre prière est valable, même si vous avez porté un vêtement où il y a un crocodile. Votre prière reste valable.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.